sûrement. Moi, c'est l'ambition que j'ai maintenant. Alors, cette histoire de charge mentale, finalement, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'a pas été verbalisé, nommé et identifié depuis si longtemps que ça. En France, finalement, on se rend compte que c'est que depuis 2017 que vraiment c'est sorti, avec la parution de cet ouvrage-là. Hein. Moi, je l'ai acheté en petit format parce que c'est moins cher qu'en grand. Qui s'appelle Un autre regard 2, qui est d'une dessinatrice qui s'appelle Emma, et qui a, dans son chapitre numéro 2, chapitre qui s'intitule « Fallait me demander », met en avant cette notion de charge mentale. Alors, elle n'a pas sorti ça non plus comme un lapin d'un chapeau, hein, bien sûr, et c'est une notion qui avait été mise en avant et travaillée, notamment par les féministes québécoises à partir des années 70, mais qui n'était pas très popularisé ni diffusé. Ce qui fait que même dans les mouvements féministes, ce n'est pas quelque chose qu'on identifiait de manière spécifique et qu'on mettait plutôt, qu'on amalgamait avec la notion de partage des tâches, de répartition des tâches domestiques, mais sans vraiment identifier cet aspect-là particulier de la charge mentale. Alors, si on veut partir sur quelque chose d'un peu théorique et... quand même toujours bien de s'appuyer sur une définition. Voici justement la définition qu'en donne la chercheuse québécoise Nicole Bray, qui est chercheuse en sociologie, et qui dit « La charge mentale, il s'agit d'un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. » Alors, résidence, je pense que c'est le terme québécois pour dire de la maison, quoi. Comment ça se passe à la maison. Et cette charge, cette tâche d'organisation, de planification, on constate qu'elle est essentiellement assumée par les femmes, dans le couple, dans la famille. Alors, effectivement, comme je vous le disais, très longtemps, on a associé ça ou amalgamé ça avec l'histoire du partage des tâches. Donc, c'est qui fait quoi à la maison ? Ça, vous allez me dire, ça évolue. Et c'est vrai, ça évolue. Hein, les jeunes hommes aujourd'hui, quand même, mettent beaucoup plus la main à la pâte. Et c'est là qu'on revient sur l'idée d'Emma quand elle dit, fallait me demander. Parce que la charge mentale, c'est pas je fais la lessive, je fais le machin, c'est j'y pense. Et c'est là toute la différence avec la notion de partage des tâches. C'est faire, c'est une chose, mais en amont, y penser, et y penser tout le temps. Elle le dit bien, Nicole Bray, hein, dans sa définition, c'est constant. C'est-à-dire que la charge mentale, ça consiste à être totalement et constamment envahie par ce souci de faire en sorte que tout va bien se passer à la maison. Ça va être aussi bien... penser à racheter de la moutarde pour le dîner parce qu'il n'y en aura plus sinon demain, que c'est le moment de faire le rappel de vaccin du petit dernier, que on a complètement oublié de rappeler machine et bidule pour leur confirmer qu'on venait dîner et j'ai oublié de les appeler. Donc, et c'est permanent, c'est-à-dire qu'on a ça en plus de tout ce qu'on fait concrètement autour de soi, hein, dans sa vie professionnelle. Et ça vient finalement peser sur la personne qui assume ces choses-là. Ça ne veut absolument pas dire que dans le couple ou dans la famille, monsieur, ils s'en dégagent complètement. On est toutes quand même à peu près à se dire, il me donne un sacré coup de main quand même. Ça, on l'entend très souvent, nous. Ah oui, mais moi, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Moi, ils m'aident beaucoup à la maison. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Et on ne doute pas un instant que, effectivement, il y a de l'aide, si on lui demande. Et c'est là que se situe tout le souci. C'est le fait qu'il n'y ait finalement pas de prise d'autonomie sur une des deux personnes du couple, et il se trouve que c'est souvent monsieur, par rapport aux choses du quotidien, qui ne sont pas des choses effectivement très valorisantes non plus, parce que c'est quand même pas l'extase de se dire « faut pas que j'oublie d'acheter de la moutarde ». Un truc hyper intéressant, hyper important, mais si ça va être important pour le bien-être de chacun dans la maison. Et cette charge-là qui va se surajouter à ce que l'on fait et aussi à éventuellement toutes nos obligations liées à notre travail, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où énormément de femmes ont une vie professionnelle à l'extérieur de la maison. Je dis bien une vie professionnelle à l'extérieur parce que je veux surtout pas qu'on imagine que je pense qu'une femme qui, par exemple, n'a pas une vie professionnelle à l'extérieur ne fait rien chez elle. Hein. J'aime pas beaucoup quand j'entends « Ah ben moi je travaille pas ». Si, tu travailles. Tu travailles parce que tu t'occupes de ta maison, parce que tu t'occupes du bien-être des gens qui habitent dedans, donc c'est aussi un travail. Mais il peut être doublé par un travail à l'extérieur, un travail salarié à l'extérieur. Et donc, il faut vraiment bien faire ce distinguo entre partage des tâches et problématique de charge mentale, parce que quand on a fini de faire quelque chose concrètement, quand on a fini de lancer la machine à laver et quand on a fini de passer l'aspirateur, c'est fini. La charge mentale, c'est jamais fini. C'est-à-dire que vous allez vous coucher et vous vous dites « Ah ouais, il faudrait que je note, là j'ai oublié ci » ou « Il ne faut pas que j'oublie de ça » ou « Ah oui, c'est demain que j'emmène un tel pour sa séance d'orthophonie » ou... Et donc, en fait, ça ne débranche pas. Parfois même, on en rêve. Donc, il y a une espèce d'envahissement comme ça et cet envahissement-là, il n'est pas beaucoup partagé et c'est bien pour ça qu'il devient envahissant, en l'occurrence. Et ce qu'on constate aussi, c'est que il y a une évolution dans la vie du couple. C'est-à-dire que cette charge mentale, elle peut être beaucoup mieux répartie tant qu'on est à deux. Et puis un jour, des fois, on est à trois, voire à quatre, voire à cinq. Et là, tout d'un coup, la charge mentale, elle va se déséquilibrer. C'est-à-dire que quelque chose qui était relativement bien réparti, on se rend compte que quand les femmes deviennent des mères, hein, qu'il y a un enfant qui arrive, il va y avoir un déplacement de la charge mentale qui va être sur la mère et qui va donc inclure à ce moment-là toutes les préoccupations liées à l'éducation ou aux soins, à la santé de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire que monsieur ne va pas emmener le petit chez le pédiatre. Mais ça veut dire que ce n'est pas lui qui aura pris rendez-vous. Donc voilà. Mais c'est aussi parce qu'on fonctionne sur une base de stéréotypes, de rôles. C'est-à-dire que... Et puis finalement, on ne s'y trouve pas si mal dans ce truc-là. Hein ? Finalement, on ne trouve pas ça bizarre d'être en charge du pédiatre quand on a un bébé. On trouve ça assez logique que ça soit madame qui le fasse. Et madame elle-même, elle trouve que c'est logique. Parce qu'on a intégré aussi un certain nombre de stéréotypes sur ce qui est... du rôle de madame, du rôle de monsieur, de ce qu'on peut attendre de madame et ce qu'on peut attendre de monsieur, et on fait vivre ces stéréotypes-là. On les transporte avec nous tout le temps. Et donc, il y a une espèce de confort, jusqu'au jour où ce confort-là, ou du moins cette situation-là, on commence à la vivre comme vraiment pesante. Et à se dire, mais finalement, quand je suis en train de réfléchir à comment j'organise les courses... je pense, le truc tout bête, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Non, mais ça, c'est un truc à se flinguer. Pardon. C'est du vécu. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et ça, c'est tous les jours, parce que c'est pas une fois par mois, hein. On mange tous les soirs, c'est un fait. Enfin, c'est recommandé comme ça, en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui va être répétitif, et il y a un moment, il y a une véritable usure. Et là, on peut se demander, mais pourquoi c'est moi, tout d'un coup, qui ne doit pas savoir ce qu'on mange ce soir? Moi, je considère que mon mari, il a un cerveau autant que moi, et il a un estomac aussi autant que moi, et il a des goûts culinaires autant que moi, et il fait très bien la cuisine en plus. Donc pourquoi ce ne serait pas à lui de se dire, bah, tiens, ce soir, on va faire ça? Parce que tout ce temps qu'on passe à réfléchir à tout ça, à y penser de manière non-stop, c'est du temps qu'on passe pas à penser à autre chose, notamment à penser à nous, notamment à être disponible pour voir d'autres personnes à l'extérieur. Donc on se rend compte que cette charge mentale qui vient se surajouter aux tâches ménagères concrètes que l'on fait, parce que je ne veux pas enfoncer le clou trop loin, mais il est clair qu'on est encore à peu près à 70% des tâches ménagères effectuées par les femmes. Dans les situations de couple, il y a effectivement 30% qui sont faites par les autres, ce qui est déjà un bon progrès par rapport aux générations précédentes, hein. Je crois qu'on peut toutes et tous là se remémorer ce qui se passait avec nos pères, nos oncles et tout, où ils n'étaient pas à 30%. Hein. Mmh. Franchement, je pense pas. Donc, ça bouge, effectivement, ça bouge. Mais pour autant, il y a quand même les 70% qu'on réalise concrètement, et puis c'est presque 100% qu'on imagine, qu'on cogite, qu'on brasse tout le temps. Et donc, tout ce temps-là, ben, il n'est pas du tout accessible à des temps de loisirs, de détente, d'apprentissage, ben, parce qu'on n'a pas la tête à ça. Parce que c'est pas facile de se dire, tiens, je vais aller apprendre l'italien. Et puis, pendant qu'on est en train d'apprendre l'italien, on est en même temps en train de penser à autre chose. En disant, merde, je ne sais plus si j'ai prévenu un tel qu'il fallait aller chercher Arthur à 18h30. Et ça vient vous parasiter. Et donc, quelque part, vous perdez en temps pour vous. Alors, bien sûr, vous le faites pour votre famille, vous le faites pour des gens qui vous sont chers, que vous aimez. Mais vous n'êtes pas la seule personne de la famille. Et c'est là qu'on peut introduire une notion qui est la notion de responsabilité des uns et des autres dans cet état de choses. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs couches hein, dans cette histoire-là. Il y a la couche, on a tous été élevés avec cette image que voilà, il y a des tâches qui sont naturellement, alors ça le naturellement c'est un mot très très dangereux naturellement, mais qui sont naturellement dévolues aux hommes et aux femmes parce qu'on aurait des talents innés pour les uns et pour les autres. Moi je connais pas le gène de la serpillière, mais on est censé peut-être l'avoir, je ne sais pas, comme je pense qu'il n'y a pas un gène de la clé à molette qui serait chez les messieurs. Mais pour autant on a été élevé avec ça, on a eu un modèle parental qui était celui-là aussi, avec une séparation bien précise des tâches. Et donc, ben, on reproduit, c'est normal. Enfin, je veux dire, on est élevé comme ça, voilà. Et puis surtout qu'on a peut-être, et j'espère pour vous, pas vu des modèles malheureux. Ça tournait bien, à peu près bien. Ou en tout cas, si ça tournait pas bien, on ne le savait pas obligatoirement. Nous, en tant qu'enfants, on ne le mesurait peut-être pas. Donc, on va avoir tendance à reproduire ces choses-là et à se dire, ben, l'intérieur, la sphère privée, c'est le domaine des femmes. Donc c'est l'intérieur, c'est la maison, c'est les enfants. Puis les hommes, ils sont sur la sphère extérieure, la sphère politique, au sens large du terme. Donc on va continuer à véhiculer ça. Et puis aussi, pour que les choses se répartissent. Déjà au niveau du faire, c'est pas évident. Alors au niveau du penser, c'est laisser à l'autre de la place pour qu'il puisse faire. C'est accepter aussi de perdre un petit peu ce pouvoir qu'on a de régenter dans la maison. Parce que si on est face à quelqu'un qui vous dit en permanence « Attends, là, je vais le faire parce que là, tu fais ça n'importe comment. » Ou « c'est pas la peine que tu le fasses parce que je vois comment tu le fais, là, il va falloir que je refasse derrière toi. » C'est clair que ça donne pas très envie. Donc on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et puis on a aussi le fait que on a le droit aussi d'exprimer le fait qu'on n'est pas parfaite, qu'on ne sera pas parfaite, qu'on ne peut pas tout faire. C'est pas un aveu de faiblesse. Je veux dire, voilà, moi je suis un être humain, j'ai mes limites comme tout le monde. Donc moi je te propose qu'on partage aussi, pas seulement le faire, pas seulement le... tu peux mettre une machine en route parce que dans 2 jours, t'as plus de slip. C'est toi, tu surveilles ton stock de slip et tu vois quand il baisse. Et à ce moment-là, tu n'as même pas besoin que je te le dise, parce que tu vas le faire spontanément. Parce que c'est aussi prendre de l'autonomie. Moi, j'étais toujours sidérée quand je voyais mon père, qui était un homme de sûr, qui avait 80 ans quand il nous a quittés l'année dernière, donc c'était un homme d'une certaine génération, qui appelait ma belle-mère quand elle était à l'extérieur, en lui disant « Où sont mes chaussettes ?» Comme un bébé, il ne sait pas où sont ses chaussettes. Et je disais à ma belle-mère, mais enfin, comment ça se fait que papa ne sait pas où sont ses chaussettes? Elle me dit, tu comprends, d'habitude, je prépare tout le matin. Je dis, mais enfin, c'est pas un enfant. Il faut aussi qu'on traite nos compagnons, nos maris, comme des adultes, en capacité de prendre des choses en charge. Enfin, c'est pas... Alors, pour eux, ça peut être confortable aussi, une certaine infantilisation comme ça. Moi, ça me plaît bien aussi, de temps en temps, de jouer là-dessus. De dire, je sais pas bien faire ça. Comme je sais pas faire, vaut mieux que ce soit toi qui fasses. C'est confort. Donc pourquoi vous voulez que ça change? Mais ça va changer si les personnes qui ressentent le poids de cette charge mentale importante et d'envahissement, comme je le disais, de la pensée, et ben du par le disent, et pas le dire en disant de manière agressive, en disant ouais, à cause de toi, ou parce que tu sais pas faire ça, ou parce que tu ne veux pas faire ça. Moi, du coup, je suis jamais tranquille, c'est pas ça, mais de dire bah, j'ai pas besoin d'aide en fait à la maison. On vit tous les deux, j'ai besoin de partenariat. J'ai pas besoin qu'on me donne un coup de main. J'ai besoin que voilà, les choses entre nous, elles soient partagées, mais pas partagées uniquement dans la réalisation. Partagées aussi dans le fait de le planifier, d'y penser. Et moi, je suis persuadée que tous les hommes sont très complètement capables d'organiser quelque chose. Enfin, je sais pas. Ça me paraît très hyper sexiste de dire non, mais les hommes, ils peuvent pas faire ça. Ils ont qu'un cerveau, nous, on en a deux ou trois, on peut faire des choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je pense que ça implique aussi d'avoir une... comment dirais-je, un type de communication dans son couple bah, qui soit vraiment quelque chose de fluide et de réel. Parler aussi des choses qui fâchent, alors là, ça serait un autre sujet, à la communication non violente. Je ne suis pas très forte là-dessus, en plus, donc je ne préfère pas. Mais je ne pense pas qu'on puisse tout le temps charger la mule en disant « ces messieurs ne font pas ci, ne font pas ça ». C'est vrai qu'ils ne le font pas. En même temps, je pense que si les rôles étaient inversés, on ne ferait peut-être pas, si on avait l'occasion de pouvoir se décharger sur d'autres personnes. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne chacun nos responsabilités, messieurs, en acceptant aussi de... voilà, d'abonder et de prendre en charge réellement les choses, pas seulement les faire, mais les prendre en charge. Et puis nous, d'accepter de lâcher les choses, de leur faire de la place, de ne pas considérer qu'on est des expertes en tout, de baisser peut-être aussi notre niveau d'exigence, hein, parce qu'on a aussi parfois un niveau d'exigence sur certaines choses très concrètes, le pliage des serviettes, je ne sais pas, les poussetages... Est-ce que c'est si grave que ça si on peut un peu écrire son nom sur les étagères? Parce qu'effectivement, monsieur, peut-être que lui, ça ne gêne pas trop et qu'il le fera moins souvent. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? En tout cas, vous, ça va vous empêcher de vous dire en passant à chaque fois « Bon, là, il faut que je le fasse. Libérez-vous aussi. » La charge mentale, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vous met quelque chose de pesant sur vous, il y a aussi ce que vous, vous acceptez de décharger vous-même. Donc on est dans le même bateau, on vit dans la même maison. Je pense qu'on a tous à y gagner à ce que ça soit mieux réparti. Après, ça veut dire qu'il faut tous qu'on se remette un peu en question et qu'on lâche des choses. Donc c'est pas toujours simple, mais je pense que franchement, pour faire du conseil conjugal, hein. Donc moi j'ai des couples qui viennent, en général quand ils viennent nous voir c'est que ça va pas fort, sinon ils viendraient pas, et je leur dis mais vous, 9 fois sur 10 voire 9 fois 9 sur 10 on est sur ce genre de notion, hein. Je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir un cinquième enfant qui serait mon mari, il n'est pas de mauvaise volonté mais voilà, il voit rien, il peut passer à côté d'une serviette de toilette qui est dans la salle de bain par terre et il ne va pas la ramasser, je ne comprends pas. Ben, est-ce que vous lui avez déjà dit que ça vous bousculait qu'il fasse ça? Ben non, je ramasse la serviette. Ben non, justement. Parlez, dites les choses, exprimez-vous. Et peut-être que lui, tout d'un coup, il va se rendre compte que ouais, c'est plus possible. Oh, le 5 s'efface, c'est mauvais signe. Donc je pense que vraiment, on est dans une notion de communication accrue, et puis dans une écoute de l'autre aussi, hein, parce que je pense qu'aussi, on peut avoir tendance à esquiver, à éluder, à pas se rendre compte, enfin à pas vouloir voir que l'autre, ça l'agace. On voit bien, hein, vous revidez le lave-vaisselle, si vous entendez toute la vaisselle qui s'entrechoque, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Hein, quand on n'est pas serein, mais c'est tellement plus simple de ne pas l'entendre, ce bruit-là, et de se dire, ouais, ben, au moins le lave-vaisselle, il est vidé. Même si ça ne me plaît pas, la manière dont ça a été fait, même si c'est fait. Donc voilà, je ne suis pas trop là. Donc il faut qu'on pense à nous-mêmes, et puis qu'on pense aussi à ce qui est important pour nous dans notre vie, avec l'autre et avec les autres, parce que là, je n'ai pas chargé les enfants, mais on aurait pu en parler quand même, parce que, bon, sauf quand ils ont 2 ans ou 3 mois, voilà. Ils n'y participent pas trop, mais après, je crois qu'on peut assez vite les mettre au boulot aussi, et aussi au boulot dans l'autonomie. Et c'est aussi notre job de parents, de les amener vers l'autonomie. Et l'autonomie, c'est pas seulement le faire, c'est aussi de penser, de planifier, l'organiser. Voilà, je suis bonne là.
Je suis bonne.
Ah ouais, mais c'est pas du tout facile, hein. Wouh.